folklore local. Histoire locale, la vie quotidienne et les événements dans le Tarn au cours des siècles passés. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'accueille à ce micro Stéphanie Corso et Aude Michaud, qui sont archivistes aux archives départementales du Tarn, dans l'équipe du service éducatif, sous la responsabilité de Joël Berker. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Bonjour Aude.
Bonjour.
Vous êtes donc des membres du service éducatif des archives départementales et à ce titre, aujourd'hui, vous avez donc eu l'envie de nous proposer une nouvelle émission. Alors, je m'adresse à vous, Stéphanie. D'abord, peut-être nous préciser qu'est-ce que le service éducatif des archives départementales.
Le service éducatif, donc, c'est une équipe qui est composée, donc, en effet, de Aude et moi-même sous la direction de Joël, mais qui aussi travaille avec donc Mathieu Ferré, qui est professeur agrégé d'histoire et qui a des heures détachées pour travailler avec nous. Et donc, le service accueille les publics scolaires, des plus petits aux plus grands, c'est-à-dire que nous allons des grandes sections maternelles jusqu'aux étudiants en université. Et pour ce faire, donc, nous proposons des visites que nous déclinons. Donc, nous avons quatre types de visites qui permettent donc de sensibiliser aux archives ou au contraire d'avoir une approche plus professionnelle du métier d'archiviste. Et puis, donc, nous travaillons avec les enseignants sur les projets pédagogiques et nous déclinons pour cela des ateliers qui répondent à leurs demandes. Donc nous avons à ce jour une vingaine d'ateliers qui abordent des thèmes aussi variés que le Tarn au Moyen-Âge, ou la vie au XVIIIe siècle, ou encore l'enseignement au XIXe. Et puis il y a aussi des ateliers que l'on peut qualifier un peu plus ludiques, comme l'atelier calligraphie ou l'atelier enluminure, où on peut s'exercer l'écriture au calame, à la plume, ou découvrir les bestiaires du Moyen-Âge.
Et vous êtes nombreux dans le service éducatif ?
Bien donc, nous sommes donc deux avec Aude pour accueillir les classes. Ensuite, donc Mathieu Ferré qui nous aide sur les préparations. Et nous avons aussi un collègue, Christophe Fournier, qui nous aide beaucoup donc, dans toute la recherche des sources, recherche documentaire, préparation des séquences et des visites.
Alors, vous avez souhaité donc intervenir dans cette émission d'Histoire locale. De quelle façon et dans quel esprit ?
Alors en fait, on aimerait intervenir dans le prolongement de ce que nous faisons déjà aux archives et en fait partager avec les auditeurs certains documents qui ont été exploités avec les élèves et pourquoi pas finalement pouvoir à certains moments pouvoir aussi recueillir la parole des enseignants ou des élèves qui ont travaillé sur ces documents, qu'ils puissent aussi intervenir dans le prolongement de ces émissions. Et en fait, ce qui nous paraît intéressant, c'est que certes, il y a les historiens, les érudits locaux qui travaillent sur les archives et qui constituent finalement le public privilégié des archives. Et puis, il y a aussi les curieux, ceux qui osent pousser la porte des archives lors des journées du patrimoine, par exemple, et qui ressortent assez enthousiastes et surpris en disant ben, « je ne savais pas ». Et finalement, si à partir de cette intervention-là, on pouvait pouvoir répondre à ces curieux qui se demandent peut-être quelle est l'origine de ce nom ou quelle est depuis quand ce bâtiment existe. À partir de nos modestes interventions, c'est un petit peu dans cet esprit-là. Et l'esprit aussi, en tout cas pour cette première intervention, de présenter une petite séquence radiophonique autour d'un thème que nous avons abordé avec des primaires, mais aussi avec des lycéens.
Alors, ce thème, c'est donc le Pont Vieux d'Albi.
Oui.
Et pour cette première émission, vous avez choisi de porter votre attention sur un ouvrage d'Émile Jolibois.
Alors, en l'occurrence, on va laisser donc Émile Jolibois, qui a été archiviste du Tarn et qui a marqué le département justement par ses travaux sur le Tarn, qui a créé la revue du Tarn. Nous allons laisser Émile Jolibois introduire finalement le sujet.
Et c'est là que nous allons aussi écouter Aude. Alors, toutes les deux, c'est à vous.
Merci. Donc, trois ponts sont jetés sur le Tarn dans la ville d'Albi. Un aval et le viaduc que la compagnie du chemin de fer d'Orléans a construit pour rattacher la gare de Carmaux à l'embranchement d'Albi. Ce magnifique pont est construit en briques et se fait surtout remarquer par sa forme légère et l'élégance de ses proportions. En amont est le nouveau pont, dit de Strasbourg, qui rectifie la route nationale 88. L'ingénieur Laroche, dont les travaux ont complètement transformé la ville d'Albi, avait projeté, il y a plus d'un siècle, la construction de ce pont. Mais il s'agissait d'une dépense de près d'un million, et une telle entreprise n'était pas réalisable pour l'époque. Il fallait le grand développement donné de nos jours aux travaux publics pour les rendre possibles. L'inauguration du monument, qui est une des œuvres d'art les plus remarquables du département, a eu lieu le 17 janvier 1867. C'est entre ces deux ponts que se trouve construit celui dont nous voulons retracer le passé, afin de montrer que dans l'abandon auquel il semble condamné, il a droit à tous nos respects. Et d'abord, malgré son grand âge, il a sur beaucoup d'autres l'avantage de pouvoir produire son acte de naissance.
Alors Aude, vous venez donc de nous lire un passage de la Revue du Tarn sur le pont vieux de 1876-1877, voilà. Hein, si j'ai de bons renseignements.
Oui, c'est ça.
Voilà. Alors donc, vous allez peut-être maintenant développer ce qu'a voulu exprimer là Émile Jolibois.
Oui, ce qui nous paraissait intéressant de partir de ce texte, c'est que Émile Jolibois, dans ce contexte, donc fin 19e, souligne la menace qui pèse sur le pont vieux, l'abandon, autant dire la ruine, et qu'il interpelle les Tarnais sur sa vocation patrimoniale. Et donc on est à un moment charnière. On voit aussi dans ce texte, on l'a pas lu là parce que du coup le texte est très long, mais il reproduit dans son article un document qui figurait dans les archives du chapitre Saint-Salvi d'Albi et qui permet donc de dater la construction du pont entre 1035 et 1042. Sur les circonstances de la fondation du pont, on peut souligner qu'à cette époque, le pont a un caractère sacré. Il s'agit d'un miracle de technique et de travail, la lutte de l'homme contre les eaux. Et puis après l'an 1000 aussi, la France connaît une fièvre des ponts due au développement de la circulation. Alors la construction de ce pont à Albi répond aux besoins de circulation générale, mais elle a aussi pour but de détourner cette circulation vers la ville en offrant aux voyageurs, pèlerins et commerçants, un passage commode et sûr.
Alors, juste une question, est-ce qu'il existait d'autres ponts dans la région qui pouvaient permettre de traverser le Tarn ?
Non, il y avait l'Ambac à Saint-Sulpice, il y avait la possibilité aussi de traverser le Tarn au saut de Sabot, et puis, a priori, donc, il y a eu un pont au XIIIe siècle à Gaillac, un pont de bois, puisque sur un plan du XVIIIe siècle, on ne trouve plus trace de l'existence de ce pont. Donc, le pont vieux était vraiment, à ce moment-là, pont construit en pierre, un accès justement sûr pour traverser le Tarn.
Ah, oui. Alors je vous écoute, vous continuez, oui.
Non, donc je voulais indiquer que le pont du Tarn permettait donc ainsi à Albi de devenir un carrefour commercial sur les routes reliant Nîmes-Béziers à Cahors d'une part et Toulouse à Rodez d'autre part. En effet, en plus du pont d'Albi, seul donc ce fameux bac permettait donc de traverser le Tarn. Et le pont du Tarn permettait enfin à la ville de s'enrichir directement car il était soumis à une taxe, à un péage. Alors, les coutumes du pont vieux, que l'on trouve donc qui figure dans un cartulaire, coutume qui date de 1245.
Alors on peut peut-être préciser qu'est-ce que c'est que les coutumes.
Les coutumes, c'est donc les usages, d'accord. Et donc figurant dans ce cartulaire, le cartulaire étant un recueil de textes qui sont importants, droits, privilèges, donc qui droits et privilèges attenant à la communauté. Donc c'est un ouvrage qui d'ailleurs, dans sa facture, dans sa forme, on voit bien que c'est un ouvrage important pour la ville. Il est écrit sur parchemin, l'écriture est soignée. Voilà, si vous avez l'occasion de le voir, ne serait-ce que en vous promenant sur notre site internet, voilà, il y a un facsimilé.
Oui, en allant aussi aux animations que vous proposez pendant
alors, voilà, parfois sur certaines expositions ou lors, en effet, de manifestations, lors des journées du patrimoine, on sort ce type de document qui est un peu exceptionnel. Voilà.
Alors, que disent ces coutumes du
Alors, que disent ces coutumes? Ces coutumes, donc, nous indiquent les taxes à percevoir pour le passage de chaque espèce de marchandise, et sur les objets de consommation. On y trouve ainsi des cris, des ustensiles, des coffres, des paniers, des cornes de mouton, de chèvre, de bouc, des graines, des vers, du fromage, divers poissons, dont même le dauphin, ce qui est un peu étonnant, on trouve cette mention. Et donc, seules les marchandises, on s'aperçoit que seules les marchandises étaient taxées. Les simples voyageurs pouvaient traverser le pont, eux, librement. Cependant, on trouve une nuance dans l'avant-dernier paragraphe de la coutume.
Tout juif ou juive, petit ou grand, qui passe par le pont, à pied ou à cheval, mort ou vivant, doit au pontanier 12 deniers.
Les juifs faisaient alors l'objet d'une détestation générale.
Donc on trouve déjà une trace d'antisémitisme.
Ils étaient considérés par la société catholique de l'époque comme les persécuteurs du Christ. Autre point par rapport au pont, on a vu qu'ils privilégiaient donc la circulation. Il représente un point d'entrée stratégique dans la ville et à ce titre, il fait l'objet de mesures de contrôle permanents. Ainsi, sur le plan des échanges commerciaux, on l'a vu, on vérifie les denrées qui transitent sur le pont pour percevoir les taxes, mais on installe aussi des mesures de protection qui s'imposent pendant les périodes de troubles. Contrôler et limiter les passages pendant les épidémies de peste ou empêcher les ennemis d'entrer en période de guerre. Pour assurer ce contrôle, cette protection, deux portes vont être construites à chaque extrémité du pont.
Alors, peut-être que nous continuerons tout à l'heure donc à parler de cette protection du pont et puis de ces deux portes que nous ne connaissons plus aujourd'hui. Nous allons écouter un groupe qui est Tarné, qui est de Géroussens et qui justement nous parle du pont d'Albi.
Canso del vent, canso d'estiu, veleu vendrà, no ten juros. Dilo matí, l'olor del riu, a baix en balos, calinyaires, per cap ressou, sents un adiu. Mas un partit, sotos cantaires, un nou punguer, vegin l'ausel, fins al tieral, menor o bar. Un nou pomiel, vegin l'ausel, patus cremat, se n'és anar. Creu-se l'ullet de París, l'utzut se l'ebre no solís, mas a l'ocell l'olun de tard, la pena curt fins a la mar.
Vous êtes sur les ondes de Radio Albigès, 95.4 et 104.2. Et dans cette émission d'histoire locale, aujourd'hui, Stéphanie Corso et Aude Michaud, des archives départementales du Tarn, font leur première émission et nous racontent l'histoire du pont vieux à Albi. Alors, ce pont vieux avait donc deux portes pour sa protection.
Oui. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir à travers des sources diversifiées comment on peut trouver des traces de ces portes et de ces autres moyens de protection. Et par exemple, on parlait tout à l'heure donc de la protection pendant les guerres de religion. On peut citer donc un acte datant du 14 mai 1610, rédigé par Jacques Pélissier, notaire d'Albi, qui fait état de la protestation de Charles Arlabos, consul de la ville d'Albi, contre les ecclésiastiques qui n'ont pas assuré la procession annuelle organisée depuis 34 ans ou environ, c'est mentionné ainsi dans le texte, pour commémorer
que par la providence de Dieu, la présente ville fut délivrée de la surprise de ceux de la prétendue religion, donc autrement dit les protestants, avaient attenté ayant gagné la porte du Tarn.
Donc là, on est bien côté ville. Cette protection, donc, sera même renforcée. Au détour d'un autre acte notarié, celui-ci rédigé par François Jalleran et daté de 1634, celui-ci porte donc sur le bail
d'un petit ouvroir ou magasin qui est joignant le pont-levis.
À noter qu'il y est aussi question
d'une petite chambre regardant le Griffoul ou la fontaine du bout du pont.
On adjoint en effet aux portes des ponts-levis en 1578 côté faubourg, 1601 côté ville.
Alors on a déjà la notion de la fontaine du Griffoul qui existe toujours actuellement à la même place.
Oui, et d'ailleurs on peut trouver trace de cette fontaine sur des représentations que l'on trouve donc dans des registres du 18e relatifs à l'arpentement, la vérification des fiefs de l'hôpital d'Albi. Et donc on retrouve dessinée la fontaine du Griffoul avec la mention et on s'aperçoit d'ailleurs sur cette représentation que juste en face il y avait l'église de la Madeleine, donc qui n'est pas à la place que l'on lui connaît aujourd'hui. En termes de représentation, On peut aussi mentionner un profil de la ville d'Albi, figurant dans une cartouche d'une carte du diocèse. Celle-ci donc datant du XVIIe siècle, 1642-1643 pour être plus précis.
Alors puisqu'on est dans une émission peu pédagogique, qu'est-ce qu'une cartouche ?
Une cartouche, c'est en fait quand on va regarder la carte, c'est pas ce que l'on voit en premier. C'est un petit encart en haut de la carte et donc on y voit dessiner ce profil. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va y voir la muraille de la ville, mais aussi donc la représentation du pont, et on distingue alors quatre maisons sur le pont, toutes au-dessus des piles. Ce profil peut être mis en perspective avec le constat effectué par les consuls d'Albi en 1404, jugeant alors
que si l'on bâtissait des maisons ou des ateliers sur les piliers du pont, il en serait plus sûr.
Par ailleurs, on a aussi une délibération consulaire du 25 mars 1405 qui nous explique quant à elle comment un certain Benezech reçut la permission de construire une maison sur le pont du Tarn en échange d'une certaine somme. Comme toutes les autres, la maison devait être construite sur l'une des piles du pont. Ici, donc, il s'agissait de la pile dédiée à Notre-Dame.
Alors, d'après Émile Jolibois, dans quel but ces maisons étaient-elles construites ?
Alors, là, ce que l'on trouve, c'est... En dehors même, parce que Émile Jolibois parle pas trop, n'évoque pas trop ces maisons. Par contre, ce qui est intéressant, c'est encore une fois de chercher à travers les différentes sources quelle vocation avaient ces maisons. Donc, elles avaient pour vocation et un double objectif, renforcer la sécurité sur le pont, d'accord, parce qu'il devenait plus facile à surveiller, entre guillemets, mais donc aussi, et c'est pour ça qu'elles étaient construites sur les piles, renforcer la construction contre la violence des eaux.
On a du mal de nos jours à s'imaginer des maisons construites sur les piles du pont.
Et oui. Mais en fait, l'histoire du pont est liée évidemment aux échanges. On l'a vu, d'ailleurs, ça a prévalu à sa construction. Et puis ensuite, la force, la violence des eaux et les différentes crues ont aussi fortement contribué à l'évolution et aux réparations qui ont eu lieu sur le pont. Et donc, on ne peut pas d'ailleurs évoquer l'histoire du pont sans parler de ces crues. Ainsi, paradoxalement, si l'on a construit les maisons sur les piles pour que le pont résiste mieux aux crues, ce sont elles qui auront raison, ces crues, qui auront raison de ces constructions. Si l'on s'arrête sur la crue de 1766, une des plus fortes, la ville entreprend alors de racheter les maisons du pont pour les détruire, afin de mieux procéder aux réparations rendues nécessaires par les dégâts consécutifs à la montée du Tarn. On a trace de ces décisions à partir de délibérations et on peut citer en particulier celles du 26 novembre et du 12 décembre 1766. Celle-ci mentionne que
l'inondation du Tarn ayant occasionné un dommage inestimable à la ville et communauté d'Albi par la perte des moulins à blé, moulins à huile, moulins foulons, manufactures, teintures, tanneries, murs de soutènement, fontaines publiques, jardins, et que les eaux de la rivière ayant lors de l'inondation bouché une partie des arches du pont, et dans la crainte que l'on eût qu'elles ne vinssent à boucher les autres, ce qui n'aurait pu qu'entraîner la chute du pont, ont cru, suivant les avis du sieur Laroche, ingénieur de la ville, devoir abattre les parapets, pour donner passage aux eaux et à la quantité des arbres énormes qu'elles entraînaient. Que ce danger passé, il a fallu rebâtir ces parapets, tant pour rendre libre le passage du pont, pour le jour de la foire dernière, que pour éviter que dans la foule, le pont étant aussi étroit qu'il est, les hommes ou les bestiaux ne se précipitassent dans la rivière malgré la précaution qu'on avait prise pour prévenir les embarras et la confusion.
Le texte mentionne enfin
qu'il ne paraît pas douteux qu'en réparant le pont, on ne se décide à l'élargir et qu'on ne détruise toutes les maisons qui sont bâties dessus.
Alors donc, des réparations sont nécessaires et ces réparations, vous en avez trouvé trace dans des documents.
Oui, et c'est d'ailleurs une des sources privilégiées dans les archives, justement pour retracer cette histoire, puisqu'on va trouver des dossiers de financement avec la nature et le coût des travaux à effectuer. Alors, si les crues ont contribué aux nombreuses transformations du pont, on peut aussi citer tout au long des siècles d'autres facteurs qui ont joué un rôle non négligeable. Ainsi, par exemple, si on avance un petit peu dans le temps, au XIXe siècle, il y a l'essor des échanges économiques et la nécessité d'adapter les voies de communication, ou encore les évolutions techniques concernant en particulier les moyens de locomotion. Ainsi, si la crue de 1766, si après la crue le pont a été réparé, il menace néanmoins ruine, car le transport des marchandises s'accroît encore, d'abord les céréales, mais ensuite ce sont les charrettes chargées de houille et de bouteilles venant de Carmaux. Les véhicules sont à ce moment-là à l'origine de la dégradation du pont, comme en témoigne une note du commissaire de police d'Albi. Celui-ci écrit:
Ce jour-là, 9 lauréats de l'an 11, donc c'est-à-dire mai 1803, de la République française, une et indivisible, nous, commissaires de la ville d'Albi, sous-signés, avons reconnu une dégradation au pont au-dessus de la deuxième arcade, des briques dérangées et forcées sur le parapet et prêtes à se précipiter dans la rivière. Sur les renseignements que j'ai pu me procurer, il résulte que la susdite dégradation avait été faite par une voiture chargée de charbon de pierre venant de Carmaux et croisant une autre voiture venant de la ville. Je n'ai pu, malgré tous mes soins, parvenir à connaître ni le nom ni la demeure des conducteurs.
La note sur l'état actuel de la sortie du pont, figurant aussi dans un devis estimatif daté du 2 pluviose de l'an 12, c'est-à-dire en 1804, pour l'élargissement du pont et l'aménagement de son accès côté faubourg de la Madeleine, est aussi assez explicite.
Une fontaine de construction très ancienne, autant que peut se faire présumer les ornements qui l'accompagnent, est établie à la sortie du pont d'Albi. Les chevaux, mulets et bœufs qu'on y abreuve souvent sans les désatteler, occasionnent toujours des embarras dangereux qui entravent le passage. Les nombreux charrois de houille viennent de Carmaux sur la route de Rodez ne font qu'ajouter à la difficulté de ce débouché qui est toujours obstrué.
L'ingénieur tient à souligner aussi que
l'entrée du pont, l'arrivée dans l'état actuel, est toujours dangereuse. Les voitures se précipitent avec une vitesse qui leur sont souvent funestes. L'entrée du pont est chaque jour, notamment pour les voitures qui viennent de Rodez, un passage redoutable par l'effet d'un contour trop peu développé pour qu'il n'appréhende point de se briser contre la fontaine.
Ce devis concerne donc un projet qui vise à transformer le pont. Il comporte l'élargissement du pont, l'élévation des parapets, l'établissement de deux trottoirs et l'aménagement des accès de la rue de Castelnau, aujourd'hui la rue Rinaldi. L'objectif est de renforcer le pont contre les inondations, mais aussi de renforcer la sécurité des personnes. On l'a vu, la pente abrupte, les véhicules lourds, l'espace encombré par la fontaine et le bétail s'y abreuvant. Ce projet très ambitieux n'aura pas de suite avant 1820, faute de financement. Mais malgré son élargissement, le pont vieux reste difficile d'accès pour les lourdes charrettes.
Alors, nous allons faire une petite pause musicale. Il nous reste encore un petit peu de temps. Et nous allons parler d'un autre pont, un pont de Toulouse. Nous sommes toujours dans cette émission Histoire locale, Stéphanie Corso et Aude Michaud des archives départementales du Tarn évoquent pour nous l'histoire du pont vieux.
Alors donc, comme on le disait, le problème du pont, c'est sa difficulté d'accès. Alors la construction d'un nouveau pont est envisagée, mais elle tarde à se concrétiser, comme en témoigne une délibération du conseil municipal datée du 18 juin 1858 et qui fait état de sa mention, donc il y a la mention sur un ancien plan de la ville dressé en 1772 par Monsieur Laroche, celui donc déjà précédemment cité, architecte du diocèse de la ville d'Albi. Mais d'après les élus, la largeur du pont qui est projeté en 1858 est insuffisante, d'autant, souligne-t-il, que
l'on objecterait en vain que le vieux pont continuant d'exister pourra être encore utilisé et servir de dégagement, qu'il suffit de connaître les lieux et de savoir combien les abords du vieux pont sont dangereux à cause de la rapidité des rampes qui y conduisent pour se convaincre qu'il sera nécessairement abandonné. Que la rectification de la route départementale numéro 1 d'Albi à Cahors aura pour effet de faire aboutir cette voie au nouveau pont et d'enlever toute circulation à l'ancien.
autant d'arguments pour les élus, pour que les élus formulent
le vœu à l'unanimité que le pont projeté sur le Tarn dans la traversée d'Albi ait une largeur de 12 mètres.
Alors finalement, quand le pont neuf, qu'on appelle pont neuf aujourd'hui, a-t-il été construit ?
Eh bien donc, comme le, et là on fait le lien avec ce texte d'Émile Jolibois lui en introduction, donc le pont neuf a été inauguré en 1867, le pont vieux ne joue plus aucun rôle dans la circulation générale, il se trouve déclassé par le progrès technique, et dans ce contexte, donc, ben voilà, l'importance de ce texte, la mobilisation de cet érudit qui attire l'attention sur l'importance du pont vieux, qui en souligne...
On parlait là d'Émile Jolibois.
D'Émile Jolibois. Donc, si on revient dans le contexte, hein, rappelez-vous, ce texte, il a été écrit en 1876, c'est-à-dire 10 ans après l'inauguration du pont neuf, et qui attire l'attention en disant attention à ce pont vieux que l'on a tendance justement à abandonner, à déclasser, parce qu'il a une vocation, il a une fonction patrimoniale, d'accord ? Et donc voilà, là on revoit un petit peu tout cet aspect-là. Et donc il sera entendu, puisqu'en 1921, une première mesure de protection est prise, le pont vieux est classé monument historique, et puis donc évidemment, en 2010, bien, donc il est inscrit dans le périmètre du site qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc là, c'est la reconnaissance du pont vieux et plus largement de la cité épiscopale comme témoin important de notre passé, donc avec cette fonction et cette obligation quelque part que nous avons d'en prendre soin et d'y conserver.
Alors peut-être pour terminer, vous allez nous dire quelles sont les sources sur lesquelles vous êtes appuyé pour tout ce développement.
Alors j'aimerais mentionner au moins deux dossiers pédagogiques, un qui date un petit peu, mais voilà, qui a dans lequel j'ai beaucoup puisé pour rédiger ce propos. Donc il s'agit du pont vieux, un axe d'histoire de la ville d'Albi qui a été rédigé sous la direction de Jean-Louis Biget et que l'on peut consulter aux archives départementales. Et puis il y a aussi un dossier pédagogique donc rédigé par Christophe Fournier, notre collègue du service éducatif, et que là on peut retrouver en ligne sur le site des archives avec justement les documents numérisés, donc faire le lien et retrouver certains documents qui ont été présentés aujourd'hui. Voilà.
Très bien, ben merci beaucoup Stéphanie Corso, merci Aude Michaud pour ces lectures. Je rappelle donc qu'aujourd'hui vous avez évoqué l'histoire du pont vieux d'Albi et donc peut-être à une prochaine fois pour une autre émission dans laquelle vous aurez choisi un autre thème. À la technique aujourd'hui, c'était Maï. Au revoir à tous et à bientôt sur les ondes de Radio Albigès.
Merci,
au revoir. Merci bien, au revoir.
Histoire locale. Histoire locale, la vie quotidienne et les événements dans le Tarn au cours des siècles passés.